Ça pue, ça s'effrite, ça tombe, ça s'écroule, ça fuit, ça suinte. Ils sont fiers de leur tour. Elle a presque 150 ans et la moitié de ses bâtiments se sont déjà cassés la gueule ou sont fermés en prévision d'une rénovation d'ampleur. Il reste juste le bloc A et ses 4 étages.
Les détenus qui travaillent sont réputés calmes, car ils sont souvent portés sur leur réinsertion ou alors tenus par la carotte des remises de peine. Une partie d'entre eux travaille pour le service général. Ce sont les activités liées à l'entretien et au fonctionnement de la prison. Une autre partie bosse pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires, qui fabrique des pièces destinées à l'administration elle-même. Mais la plus grande partie de ces forçats travaille pour le compte d'entreprises extérieures privées. Façonnage, conditionnement, montage, assemblage, petits usinages en tout genre. Ces entreprises se gardent bien de s'en vanter sur leur site et dans leur catalogue. Les détenus n'ont généralement aucun moyen de savoir pour quelle boîte ils travaillent. À la santé, on travaille généralement pour Paris Façonnage, Lacoste, Dior et d'autres. Souvent des marques de luxe, selon les périodes. Dans d'autres prisons en France, on peut travailler pour Bouygues, EADS, EDF, Givenchy, Bic, L'Oréal, Orange, 3M, Yves Rocher, Renault, Haribo, etc., etc.
Cependant, il n'y a pas de contrat de travail en prison, puisque c'est interdit par le code pénal. Ce qui veut dire pas de SMIC, pas de congés payés, pas de droit syndical, pas d'arrêt maladie. L'inspection du travail n'a pas le droit de se rendre inopinément en prison. Elle doit être invitée par l'administration pénitentiaire. Autant dire jamais. Les conditions de travail sont donc difficiles et les machines sont souvent vieilles, défectueuses et très dangereuses. Le travailleur pour les entreprises extérieures est généralement payé à la pièce et ce sont les boîtes en question qui fixent les cadences horaires. En gros, et en moyenne, le salaire va de 200 à 300 euros cantinables par mois, desquels est parfois prélevé une certaine somme sans accord du détenu pour rembourser les parties civiles de son affaire. En gros, chaque travailleur travaille dans un mètre carré.
Ceux qui ne bossent pas pour des entreprises extérieures, mais pour l'industrie carcérale à proprement parler, et la prison elle-même, gagnent encore moins. Ils sont attachés aux tâches trop ingrates pour qu'un maton ou un employé sous juridiction du code du travail ne l'effectue lui-même. Laver la crasse, la merde, le sang, servir la gamelle, porter des palettes de cantine, etc. Ça rentabilise le fonctionnement de la prison grâce à cette manne financière d'un travail pénible, très peu rémunéré et violemment cadencé. Les entreprises privées, elles, s'offrent le luxe d'une délocalisation à domicile. Bref, on a beau dire que le travail en prison aide à la réinsertion, c'est en fait qu'un gros chantage à la remise de peine et à la misère. Le travail est devenu nécessaire à beaucoup de détenus car, contrairement à certaines idées reçues, il faut de l'argent pour vivre en prison.
Le gars, il arrive à un certain moment où il fait 18 ans, il voit autour de lui. Il regarde des gens avec des voitures, il regarde des gens avec des beaux habits, des gens qui se permettent des sorties en discothèque, des gens qui se permettent des restaurants. Des gens. Le gars, il est là, il se sent inconnu à ce monde-là. Il dit, tiens, comment il faut faire pour accéder à ce monde-là? Pourquoi certaines catégories peuvent se permettre et l'autre non? Ce qui veut dire que vol, agression, tout ça, c'est permis pour y arriver dans cette jungle. Tu commences à prendre le coup à l'argent, tu prends le goût, tu te dis ça y est, je commence à faire partie du monde actif.
Tous les jours se ressemblent. La plupart du temps, enfermé à regarder la télé, des fois je m'amuse à nettoyer les murs. Je trouve ça important que ça soit propre là où on vit, dort et mange. J'ai toujours mal à la tête à force de rester enfermé. La nourriture est pas bonne, il faut beaucoup d'argent pour pouvoir manger, boire de l'eau, car l'eau du robinet est pleine de calcaire. Moi qui suis fumeur, il faut s'acheter des clopes. Enfin, parfois ça va, mais là en ce moment c'est très dur. Pour te dire que j'ai perdu l'envie de manger. On dort mal, sur un truc en mousse, sans coussin. Mais bon, j'arrive toujours à garder le sourire. Je ne pense plus à demain, le pire.
Ça y est, tu commences à goûter ce que tu vois à la télé, les séries, là. Personne vit comme eux. Maintenant que je suis ici, je réalise, il n'y a personne qui vit comme eux. C'est inimaginable. Parce que franchement, on commence à voir clair. On commence à voir très très clair. Une fois qu'on est ici, on a le temps de réfléchir, on a le temps de penser. C'est comme un circuit de voiture. Vous ne pensez qu'à doubler. Vous êtes dans le circuit, vous êtes au volant de votre voiture. Vous ne pensez qu'à doubler, avoir la première place. Ça va du 200 à l'heure. Vous n'avez pas le temps de voir ce qui se passe autour. Nous, c'est quoi? Nous, c'est la voiture qu'on a pris du circuit pour un mauvais fonctionnement ou bien pour un tête à queue qu'on a fait de trop. On nous a sorti du circuit et on est là. Et on voit les voitures tourner comme des fous.
À croire qu'ils veulent tout faire pour me garder autant qu'ils peuvent, les bâtards. Déjà qu'ils font n'importe quoi au niveau des courriers et des cantines. Voilà qu'ils veulent me garder coûte que coûte. Je commence vraiment à être à bout de nerfs. et j'aimerais vraiment pas rester un jour de plus dans cet enfer.
On a le temps de réfléchir, on se dit, oh, on est tellement temps, nous. On est tellement en train de courir comme des fous, après quoi, après l'argent.
Là, je peux plus rien faire. Je suis obligée d'y rester encore, car j'ai pris 6 ans et demi, et j'ai encore aucune possibilité de sortir de ce trou. Ça me fait péter un câble, d'être enfermée. Ça va faire bientôt un an, pour une histoire bidon. Mais bon, c'est la vie.
On voit la société comment elle marche. On voit la justice comment elle marche. Franchement, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir. À chaque cause, il y a un effet. Et chaque effet, il y a une cause.
Je suis dans ma cellule. Elle doit faire 10 mètres carrés. Il y a un placard, un frigo, une table, une chaise, et une douche, un lavabo, une télé, un lit, une petite fenêtre. Ça pourrait aller mieux si j'étais dehors, si j'étais près de mes proches. Je suis enfermé, donc. Ça fait que 4 ans que je suis en prison, enfin que c'est déjà beaucoup. Et à part en fait sortir et rentrer, j'ai quasiment rien fait de ma vie. Voilà. Donc, y a pas de place pour moi, en fait, dans ce monde, en fait. Et à chaque fois, en fait, que je suis sorti, de toute manière, on m'a dit, ouais, on va te remettre dedans.
Je suis rentré jeune en prison. J'avais compris, je comprenais, et puis là, je sais plus à quoi me faire, en fait. Ouais. Des fois, t'as envie de fermer les yeux et plus jamais envie de les ouvrir. On a tous pensé à se dire, putain, pourquoi continuer à vivre? On s'est tous dit ça. C'est pour ça que beaucoup de détenus se plongent dans des cachets, dans des traitements qui les rendent des loques. Ou alors, beaucoup de détenus se mettent à fumer du shit ou prendre des drogues parce que c'est dur, voilà. Donc, ils veulent plus voir les choses. Les suicidés, j'en ai vu un paquet. Parce que le soir, quand t'es dans sa cellule, tu fais que penser, que gamberger. Tu te tournes à droite, tu as le mur. Tu te tournes à gauche, tu as le mur. Et voilà. Chaque soir. Eh bien, les gens qui se suicident. C'est incroyable. J'en ai vu énormément. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'ai que de la haine. De la haine avec un désaccord qui te révolte plus que tout. Tu te retrouves avec des procureurs qui te comprennent pas, des juges qui te comprennent encore moins parce que personne ne veut te recevoir. C'est dur de croire en l'espoir, mais tout seul. Tout seul avec un espoir et puis un mur en face de toi. Et ça, crois-moi, c'est très dur. C'est ça le plus dur.
Voilà une partie de ce qu'a dit Michel Guélam lors du procès pour son évasion de la prison de Clairvaux et qui résume bien ce qu'il pense du cirque de la justice et de la nécessité de penser à s'évader pour les prisonniers. Je n'attends rien de l'issue de tout ça. Ce dont j'ai besoin, c'est de la liberté et ça, vous pouvez pas me la donner. Ce soir, comme demain, dans un mois, dans un an, les matons là-bas, ils m'assassineront. L'issue, je la connais. Vous nous parlez de réinsertion, monsieur l'avocat général. Si vous nous faites passer des années avec de tels tarés, vous attendez quoi? J'ai une absence. En France, la peine de mort a été abandonnée depuis 1980. En réalité, elle continue, sauf qu'elle est plus subtile. Si vous continuez à condamner et à laisser torturer les gens en prison, ne vous étonnez pas que des mecs s'évadent. Nous tous, les évadés, nous avons une vision de la vie et de la liberté. Nous n'avons jamais eu envie de casser du bonhomme, comme nous l'avons entendu dire. J'avais une balle dans la tête. Je savais pas où j'allais passer la journée. L'otage vous a dit ce qu'a été mon premier désir? C'était de courir dans l'herbe. Pas de casser du bonhomme. J'en avais un plein camion, j'aurais pu en casser si j'avais voulu. Moi, je voulais juste courir dans l'herbe.
Alors, lettre de Nordine Belalal, depuis la section de haute sécurité de Bruges en Belgique, avril 2011. C'est bien possible qu'il y ait juste un truc qui cloche avec moi, mais je me suis toujours senti comme un étranger. Dans n'importe quel environnement où je me trouve, je suis étranger. Rien d'autre qu'un alloctone dans ma ville. Depuis la naissance, ils m'ont mis un tampon alloctone. Ils ont changé le système, maintenant modernisé si tu veux, mais le principe reste le même. Je dis allochtones parce que j'ai passé trop de temps en Flandre et plus encore chez leurs amis hollandais, ceux qui ont colonisé la Belgique avant que ce ne soit la Belgique. Le pays qui donne l'eau à la bouche encore à ses petits ministres flamands et le pays qui leur sert de grand exemple. Je pourrais aussi dire délinquants. Petits marocains ici, berbères là-bas, sales et pauvres, rien de plus qu'un touriste perdu au Maroc. Je suis resté sourd à la langue de camp de concentration moderne qu'est cette tôle de Vught en Hollande où j'ai été enterré vivant pendant quelques années. De là, j'ai ensuite bougé à quelques kilomètres, mais le décor a un peu changé. C'est d'ailleurs le grand exemple de l'EBI, prison de haute sécurité à Vught, que la Belgique a emprunté pour construire son bloc d'isolement. Enfermé dans un cachot institutionnalisé et permanent dans la prison-usine de Bruges, la différence est dans la couleur des murs. Avec les matons, on n'a pas à se comprendre, je n'ai rien à voir avec eux, je n'ai pas à être ici. Étranger au mien aussi. Coup après coup, c'est moi qui me retrouve dans le banc des accusés. Je regarde autour de moi, il n'y a personne, étrange. Accusé et condamné en premier lieu par les médias, avec les juges en croupe et les honnêtes citoyens. Et comble de tout par de soi-disant complices. C'est devenu tellement de bon ton et si facile de marcher avec la police pour sauver son propre cul. Et ceux qui n'ont jamais rien su, ni vu, ni entendu, ramassent bien, évidemment. Pourtant, je ne penserai même pas une seconde à changer quoi que ce soit. Comme on dit, la mauvaise herbe repousse toujours. Et j'entends bien être une mauvaise herbe dans leur prairie de bonnes intentions. Face à un monde aussi exécrable, que ce soit ici ou dehors, la seule chose que t'as, c'est ta dignité. Quand tu la vends, peu importe si t'as bien encaissé, tu l'as vendue, ta dignité. À l'intérieur de toi, t'es déjà mort. Comme c'est l'argent qui fait tourner le monde, la prison n'échappe pas non plus à cette logique. Faire travailler les prisonniers, c'est un vrai business. Toutes sortes d'entreprises ont des contrats ici. Les camions vont et viennent toute la journée. De toutes les prisons que j'ai connues, faut dire que Bruges vole haut. Un peu comme aux États-Unis où règne le monde du fric. Sur les 800 prisonniers qu'il y a ici, une grande partie travaille, pour une rémunération minable, dans des conditions indignes, mais pas de souci avec la législation, profit garanti. Comme pour les sans-papiers dehors, l'exploitation n'a plus de limite. La directrice m'a aussi demandé de travailler, ça c'était une bonne blague. Moi, j'irai chipoter avec de petits pots en plastique à longueur de journée pour remplir leurs poches, je ne pense pas. Ici, un homme est maintenant attaché à une chaise, mains et pieds liés, c'est comme ça qu'il le trimballe à la douche à 10 mètres de la cellule. Ses hurlements des dernières semaines ont cessé, il ne fait plus que pleurer jour et nuit. Il bourre tout le monde de médicaments. Ils me disent que ce sont des vitamines, je leur réponds que s'ils ont quelque chose à foutre de notre santé, qu'ils nous donnent des fruits, ou qu'ils nous libèrent tout court. Les infirmières passent 3 fois par jour, parfois plus, quand nécessaire, comme cette fois où ils avaient besoin de vraiment droguer les gens, au point qu'ils ne pouvaient plus parler ni bouger. C'était quand la télé est passée il y a 2 semaines, avec le souci de bien montrer que tout va bien ici, selon les règles. Quand évidemment ils ne pouvaient pas parler avec ceux qui auraient peut-être eu quelque chose à dire. Mais on a largement dépassé le stade où il suffirait de dénoncer ce qui se passe. De toute façon, ça ne choque pas. Beaucoup plus qu'exercer la répression physique contre les gens, ils ont réussi à entrer dans leur tête. À partir de ce moment-là, c'est perdu. Les gens ne voient plus que le monstre que les médias ont créé, l'étranger. Ce genre de régime ultra-répressif tombe pas du ciel. Il y a des personnes qui lui donnent forme, qui le perpétuent jour après jour. Ce sont eux les responsables. Comme Monsieur Meurice, Hans Meurice est le directeur général des prisons, et sa bande de laquais, ce monsieur qui a dû se cacher dans un bunker avec sa famille quand un prisonnier a réussi à s'évader d'ici, pendant que des flics armés jusqu'aux dents protégeaient la prison de Gand, sa résidence officielle. Tous les autres, tous ceux qui exécutent ses ordres, se cachent derrière lui pour se déresponsabiliser comme des lâches. La question de la prison, c'est vraiment très simple. Dans cet environnement, il n'y a pas 10 000 options. Pour être franc, il y en a 3. Soit tu deviens fou, soit tu te suicides, soit tu t'évades. Vraiment très simple. Tout ce que ces hypocrites font, c'est caqueter réinsertion ici et resocialisation là. Et entre-temps, t'es enfermé ici, et c'est une vraie lutte de ne pas perdre tes sens, aussi bien la raison que les choses qui paraissent les plus simples. Toucher, voir, sentir, entendre. Penser la liberté, te presser pour l'atteindre, c'est ce qui te garde en vie. Nordine Benalal, depuis la section de haute sécurité de Bruges, avril 2011.
Nager dans l'angoisse. angoisse comme un poisson dans la vase. Pour gérer y'a que ma face, y'a rien qui se passe, elle reste de glace. On me vise comme terroriste, cassos, une crise d'autiste, casseur. Les ports harcèlent mes assos, et quand on se compte bonheur, fric et le passeur. À la frontière de ma rancœur, j'tape dans le tas sans patience, et mes passions percent le cœur, y'a rien qui berce, ça craint. J'suis cette espèce d'accro, mes poches se percent, c'est rien, j'me perds, j'délaisse le micro. Mes passions c'est brûlot, la pression du boulot. J'me rapproche du goulot, les illusions c'est grillé, les souris dansent et les porcs pioncent. Pendant quand les sourires m'étrangent, braille seul, en sang à poil dans les ronces. La terreur c'est l'espace où les étoiles se payent en espèces. Mes humeurs c'est l'espace quand le patron tire sur la laisse. Leurs messes sont balèzes, nourris de masse, c'est trop nasse. Faut que je me libère leur emprise, dans mon cerveau ça sent le gaz. 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 Dans mon cerveau ça sent le gaz.